vêtue de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est.
Combien grand tu es. Accorde-moi la révélation de ta grandeur. Je veux te connaître par mon esprit éternel. Que le Saint-Esprit me révèle qui tu es. Ô Père, je veux connaître ta grandeur. Parle, prie ton Dieu. Que la révélation de Dieu soit davantage plus grande dans ton homme intérieur par son esprit. Prie le Seigneur afin qu'en ce jour, sa révélation dans ton âme grandisse davantage. Que tu connaisses qui il est. Prie ton Dieu ce matin. Ah oui, quel grand Dieu! Quel grand Dieu!
Oh Dieu!
Quel grand Dieu tu es!
Chantons-le!
Senti dans mon esprit, je l'ai vu au premier culte. Je sais que ce jour est un jour béni. Je sais que ce jour est un jour exceptionnel. Je sais qu'il y a quelque chose qui va prendre place dans ton homme intérieur ce jour. Je le sais que quelque chose va se passer en toi. Amen. Le Dieu que nous servons est si grand. Bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci avant qu'on tourne nos Bibles dans le livre de Romains 5. Je voudrais vous dire ceci. En ce qui me concerne, je le dis constamment ces derniers temps et avec tellement de conviction parce que je le vois se manifester. Je vis les meilleurs de mes jours sur terre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. J'ai commencé à goûter aux délices du royaume. Et je vais vous dire, Dieu est bon. Amen. Dis à ton voisin, je crois qu'il est bon. Vous savez, il y a des moments où vous ne le voyez pas, mais croyez simplement qu'il est bon. Parce que plus vous le croyez, plus vous le voyez. Dis à ton voisin, je crois que Dieu est bon. Et qu'il agit en ma faveur. Alléluia. Amen. Hier, j'étais à une interview et une chaîne radio pendant 2 heures de temps, très intéressante, nous parlions du royaume des cieux. Et au milieu de l'interview, il y a un journaliste qui m'a posé la question. Il m'a dit, homme de Dieu, dites-moi, si vous n'aviez pas été pasteur, qu'est-ce que vous auriez été? Vous auriez aimé être dans la vie? Et j'ai regardé cet homme et j'ai aimé sa question. Je lui ai dit, premièrement, si je n'avais pas été enfant de Dieu, je me serais jeté dans le royaume et j'aurais dit, Jésus, sauve-moi. Parce que j'ai goûté Dieu et j'ai vu que Dieu est succulent. Ensuite, j'ai dit, vous voyez, quand vous regardez mes cheveux, le teint de ma peau, ma langue, mes dents, mes pieds, mes mains, j'ai été conçu pour être pasteur. Dieu m'a fabriqué pour que je sois là où je suis. Je lui ai dit, il n'y a rien d'autre que j'aurais aimé être que ce que je suis actuellement. Alléluia! Amen! Je souhaite que chacun d'entre nous puisse dire ça au sujet de sa personne. Amen! Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que j'aurais aimé être que ce que je suis. Amen! Quand vous arrivez à cette dimension, vous êtes dans la gloire. Amen! Pas en fonction de ce que je touche ou je vois, mais sa présence. J'aime Dieu. Il n'y a rien qui me fait reculer. Je parle avec audace et courage. Je n'ai pas peur pour ma vie, car je sais qu'il est là. J'aime Dieu, je suis amoureux. Je vous garantis. Je suis amoureux de Dieu. Et mon amour grandit. Je suis passionné. Je l'aime profondément. Demandez à ma femme. Je l'aime tellement que si elle n'était pas spirituelle, elle devait être jalouse. Je l'aime. Quand je suis avec lui, c'est autre chose. J'aime Dieu. Et je veux vraiment t'encourager à aimer Dieu. Vous savez, de façon que si tu te rends compte que ton amour baisse, crie à Dieu et dis, je veux t'aimer encore plus. Dis Dieu, je veux t'aimer. J'entends parler de ton amour, mais donne-moi de tomber amoureux de toi. Je veux t'aimer. Alléluia. Amen. Je me rappelle les choses que Dieu m'a dites. Les épreuves dans lesquelles je suis passé, les victoires que j'ai remportées, mes ennemis qui ont été terrassés, la gloire que j'ai vue, les promesses qui arrivent. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez me dire que le royaume des cieux n'est pas agréable. Vous savez, j'ai un problème avec les gens qui sont dans le royaume et qui font pitié. Ils ne sont pas dans le royaume. Ils sont dans les parvis du royaume. La religion et le royaume, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Tourne ta Bible avec moi au livre de Romains 5. Je sens que la parole ce matin. Dis à ton voisin, je sais que quelque chose va se passer dans ma vie ce jour. Alléluia. Amen. Et il y a des visages quand je vois dans la salle, je suis content. Parce que je vois le parcours. Je vois où Dieu a pris certaines personnes. Je vois où ils sont. Je les regarde et dis, waouh, je sais le témoignage. Je sais comment la personne était quand elle est venue. Maintenant, je la vois, je dis, non, la parole de Dieu marche. Il y a des personnes dans cette salle, quand je vous vois, même quand je suis découragé, je prends courage. Parce que votre vie est une illustration que la parole de Dieu marche et que la prédication est vraie. Regarde ton voisin, regarde ton voisin, regarde ce que Dieu est en train de faire. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? Amen. Amen. Pince-moi voir, est-ce que je rêve? Non, je rêve pas. C'est vrai, c'est toi. Waouh, quelle gloire! Alléluia! Amen. Amen. Alléluia. Prends ta Bible avec moi, le livre de Romains 5. Amen. Je vais enseigner ce matin. Romains 5, verset 17 à 20. Si par l'offense, on y va ensemble, 1, 2, 3. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie se tend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Merci au Père de donner à toute personne qui m'écoute le privilège inouï d'avoir accès à la connaissance révélée par ton esprit. Conduis-nous sur le boulevard éternel de la foi, où les choses exceptionnelles se produisent par ta puissance merveilleuse. Éternel des armées, je remets mon intelligence, mon langage, mon système de pensée, les paroles, les phrases qui seront dites au Père, afin que chaque mot soit dit à propos, même les illustrations, les témoignages, Éternel, pour servir à ta gloire. Amen. Et que chacun d'entre nous passe d'un palier à un autre pour que ton nom soit exalté. Amen. Respecté, honoré parmi les hommes, au nom de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen trois fois. Donne-moi un Amen sanctifié. Trois fois.
Amen.
Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors, ce matin, je vais enseigner sur le thème « Décide-toi à régner ». Décide-toi à régner. Je vais vous dire quelque chose. Si nous voulons régner dans la vie, ce règne n'est possible que si nous faisons le choix, nous prenons la décision, que dis-je, la résolution de régner. Régner, c'est vivre sur la terre selon les desseins arrêtés par Dieu. Vivre au milieu, au centre de sa volonté parfaite, c'est déplacer le ciel sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? L'oreille. L'oreille. C'est triste de voir comment aujourd'hui plusieurs personnes pensent que le salut est un échappatoire aux problèmes de la vie auxquels nous sommes confrontés sur terre. Les gens pensent que parce qu'ils souffrent, ils sont malades, ils sont misérables, alors ils doivent aller avoir Jésus et puis pof, ils vont échapper aux problèmes pour aller au ciel. Non! Dieu n'a pas envoyé Jésus mourir à la croix pour que nous ayons une vie meilleure là-haut. Non, pas du tout. Sinon, on ne serait pas différent des kamikazes qui se font péter, éclater, exploser pour rencontrer des vierges au ciel. Non, on n'est pas de cela. Dis à ton voisin, ça c'est pas mon partage. Non, 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 non. Vous voyez, si Dieu n'attendait que le ciel pour te bénir, alors Dieu serait méchant. Parce que tu n'as jamais prié pour être sur la terre, il t'y a envoyé et il a la pleine responsabilité de combler ta vie sur la terre et te donner de vivre le meilleur de lui, du ciel sur la terre. Il est écrit par un seul homme, j'aime ça, le péché est entré dans le monde. Ça veut dire que ce n'est pas ma faute. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Ce n'est pas la tienne, c'était la faute d'Adam. Pas un seul homme. le péché est entré dans le monde par un seul autre homme. Nous sommes devenus justes. Vous voyez? Et donc, Jésus, le second Adam et le dernier, a payé le prix à la croix pour que nos vies redeviennent l'illustration parfaite de la gloire de Dieu. La gloire que nous avions perdue de par le péché a été pleinement restaurée. Donc Jésus nous a sauvés pour que nous soyons célébrés. Il nous a sauvés pour nous distinguer. Il nous a sauvés pour que nos vies servent de référence à la manifestation de sa puissance. Et que quiconque veut voir ou connaître qui est Dieu passe par nous. Tu n'as peut-être pas compris de quoi je parle. Matthieu 5, verset 14 à 15. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu est une référence. Chaque enfant de Dieu est un témoignage. Chaque enfant de Dieu est une preuve, une évidence de ce que Dieu est vrai. Vous êtes la lumière du monde. Puisque Dieu lui-même est lumière. Donc si nous sommes la lumière du monde, nous sommes l'expression visible de la divinité invisible. Quiconque nous voit, voit Dieu. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire, bien-aimé, qu'on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et mener une vie cachée. Non. Dieu nous a destinés pour les hauteurs. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il dit, une ville qui est bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Donc, Dieu t'a mis sur la montagne. Il veut que ta vie soit élevée. Que les autres vivent au seuil normal, mais toi tu es dans les hauteurs et tu comprendras pourquoi. Dieu nous a destinés aux hauteurs. Toute personne qui pense contrairement à la hauteur est influencée par la puissance des ténèbres. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a déposé en toi ne doit pas être caché. Mais il dit, on la pose où? Sur le chandelier. Même pas sur la table, mais sur le chandelier. Le chandelier est au-dessus de la table, placé sur le plafond. Afin que toute personne qui entre dans la maison reçoive la gloire de la lumière à partir du chandelier qui est posé. Je déclare sur ta vie par la puissance de Dieu que c'est un partage dans ta génération au nom de Jésus. Amen, c'est ce que la Bible dit. Alors je vous pose une question. Est-ce que Dieu ment? Je vous pose une question. Est-ce que Dieu ment? Vous voyez, beaucoup de personnes réfutent cette vérité et sont en train de dire de façon implicite que Dieu est un menteur. Il dit, vous êtes la lumière. Il n'a pas dit vous serez, il dit vous êtes. C'est ce que Dieu dit. Donc si je crois que Dieu est vrai, alors je sais que je suis la lumière. Quel que soit ce que je traverse, je suis la lumière. J'ai été destiné à briller et je vais briller. Est-ce que ça va? Regardons maintenant comment est-ce que Dieu a pensé et ensuite créé l'homme. Il y a deux phases, penser et créer. Dis après moi, penser, créer. Penser, créer. Penser, créer. Maintenant, vous devez comprendre. La pensée ici révèle la responsabilité de l'initiateur. Et il dit, Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons, il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc ici, en ce moment précis, quand Dieu parle, l'homme n'est pas encore créé. Dieu est en train de penser à la création de l'homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il pense, il réfléchit. Et il fait à l'homme à notre image. Faisons l'homme selon notre ressemblance. Donc il réfléchit en disant, il faut que cet homme-là domine. Il pense à créer l'homme pour que l'homme domine. C'est sa pensée. Pour que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Maintenant, au moment de créer l'homme, il est obligé de le créer de façon qu'il puisse vraiment dominer. Ça veut dire, si vous, par exemple, vous devez faire un avion de chasse, ou alors un avion de ligne, les ingénieurs vont dire, OK, si c'est un avion de chasse, on va le concevoir différemment, parce que ce n'est pas un avion de transport. Lui, c'est un avion de guerre. Donc, l'avion de guerre doit être muni de certaines choses qui permettent qu'à un certain moment, il puisse lâcher des bombes pour terrasser les ennemis. Donc, on le conçoit en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre quand on le fabrique, n'est-ce pas? Maintenant, si vous faites un avion de ligne, vous mettez plus de place parce que vous voulez qu'il y ait des passagers qu'on va transporter d'un point à l'autre. Donc, quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme pour la domination. Donc, la conception de l'homme exige que ce que Dieu place dans l'homme puisse l'amener à la domination. Et c'est ainsi que le verset 27 dit. Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fallait pour que l'homme domine devait être l'image de Dieu. C'est donc la conséquence. Parce qu'il doit dominer, donnons-lui notre image. Parce qu'il doit régner, il faut qu'il soit comme nous. Parce que s'il n'est pas comme nous, il ne peut pas régner. Vous comprenez? Donc c'est ainsi qu'on est conçu comme Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La précision, c'est que chaque femme et chaque homme ici doit se rendre compte qu'il est tiré de Dieu avec un seul but, celui de régner. Vous comprenez? C'est le seul but, régner. Et puis Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Assujettissez, remplissez la terre, dominez. Vous voyez, sur les poissons de la mer, sur les hommes du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Il dit, dominez. En quelque sorte, fonctionnez selon votre conception. Vous avez été conçu pour dominer, fonctionner comme tel. Chaque fois qu'il y a absence de domination, il y a dysfonctionnement. On a été conçu pour dominer. Il n'y a que les personnes spirituellement malades qui n'aiment pas la domination. Ne pas aimer la hauteur, ne pas aimer l'élévation, ne pas aimer la gloire, c'est un signe que quelque part, les démons ou le diable ont une influence en nous. Quand on a été conçu pour dominer. Donc, régner dans la vie, quand on est né de nouveau, devient donc pour nous, devient une décision que nous prenons. Ce n'est plus la responsabilité du ciel, car le ciel nous a déjà doté de tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est une décision qu'on prend de fonctionner selon le programme initial qui a déjà été placé en nous. Vous êtes avec moi? D'accord? Donc la domination. Et il dit que nous régnons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour régner dans la vie, ce n'est ni mon diplôme, ni mes origines, ni la couleur de ma peau, ni mes relations humaines. Je règne dans la vie par Christ. Et ça, c'est une vérité que chacun doit avoir. Je règne par Christ lui seul. N'avez-vous pas vu des gens qui ont 15 doctorats qui sont fous? N'avez-vous pas vu des hommes riches qui sont devenus pauvres? Vous n'avez-vous pas vu des gens élevés qui ont été rabaissés? Pourquoi? Le règne, le vrai, n'est possible que par Christ seul. Quand il élève, personne ne peut. Quand il ouvre une porte, personne ne peut. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Oh, je déclare sur ta vie que tu marcheras et fonceras dans le règne de Dieu. Amen. Quelqu'un dise Amen. Amen. Quelqu'un dise Amen. Amen. C'est d'abord une décision personnelle. Je décide de régner. Et l'un des problèmes auxquels j'ai été confronté quand je suis venu à Christ, c'est que je me suis rendu compte que l'Église était complaisante dans la médiocrité, complaisante dans la pauvreté, complaisante dans la maladie. Et on était tout le temps là en train de trouver des excuses pour dire aux gens, on sera heureux au ciel. C'est un mensonge. Si Dieu t'a oublié sur la terre, c'est peut-être évident qu'il ne te connaît pas au ciel. Et l'intention de Dieu n'a jamais été que tu sois heureux au ciel, mais sur la terre. La terre est l'endroit où il a voulu te donner tout le bonheur possible. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, mon petit troupeau ne craint point. J'ai trouvé bon de te donner son royaume. Dis à ton voisin, j'ai trouvé bon de donner le royaume. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes, dans le corps de Christ, vivent la misère qu'ils vivent. Vous voyez, on passe des nuits de prière, on passe des temps de jeûne, mais la souffrance continue. Pas parce qu'il y a une malédiction quelconque, non. C'est la majorité, c'est les pupitres qui nous nourrissent. Le pupitre peut détruire ta destinée. Voyez, je vous dis la vérité, c'est dans la Bible. Le type de message que nous entendons peut falsifier notre destinée. Pendant longtemps, on a entendu des messages terribles. Terribles. Vous voyez? Et nous, les Africains, qui avons un background fétichiste, on est entré à l'église comme si c'était du fétichisme ou du doudou. Non, c'est le royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le royaume. Ça n'a rien à voir avec les pratiques anciennes. Regardez cette histoire. Dieu, dans sa souveraineté, le plan qu'il met en marche pour la rédemption, bâtit une alliance avec Abraham. Il dit, Abraham, sors de ton pays, t'apporterai la maison de ton père, vas-y dans le pays, je te montrerai, je viendrai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Donc il parle à Abraham. Ensuite, il va dire à Abraham, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Il dit, après, je vais les délivrer. Et donc, ce peuple arrive en Égypte en captivité. Il se trouve donc un édit du roi est donné afin que tous les enfants soient tués à leur naissance parce qu'il était annoncé qu'un Messie viendra pour sauver le peuple. Moïse naît et est déposé dans les eaux. Plus tard, la fille de Pharaon arrive au fleuve et miraculeusement sauve l'enfant parce qu'elle a trouvé qu'il était beau. Elle l'amène au palais, il grandit. Moïse a 40 ans et se rend compte qu'il n'est pas égyptien. Donc, il voit deux Égyptiens en train de se battre, deux Juifs en train de se battre et il s'interpose. Parce qu'à l'intérieur de lui, l'ADN de Dieu, le petit truc qui est à l'intérieur, commence à lui dire, c'est pas ta place. Donc il commence à être juge et il est trahi et il fuit dans le désert. Dieu se révèle à lui 40 ans plus tard encore et le renvoie vers son peuple en disant, va faire sortir le peuple. Moïse arrive avec Aaron pour prophète. Et donc, il parle à Pharaon qui résiste. Première plaie, deuxième plaie, troisième plaie, quatrième, jusqu'à la dixième. Il y a une terreur comme on n'a jamais vu en Égypte. Tremblement de terre, toutes les familles sont apeurées. Le Dieu de ses esclaves est apparu. Les gars qui étaient méprisés commencent à être soudainement respectés parce que le Dieu s'est montré dans la scène. Oh my God. Au point où, le même jour, la femme qui est servante à la maison, le technicien de surface, le cordonnier du coin, le waterman, le pousseur, le même jour devient multimillionnaire. T'as compris de quoi je parle? En un seul jour. Dans l'ancienne alliance, dans l' ancien testament, ils sortent d'Égypte, les mains remplies de trésors. Ils arrivent dans le désert. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de Socosé, il n'y a pas de Carrefour, il n'y a pas de Monoprix. Ben, il y a le ciel. Il y a le ciel. Donc ils arrivent, ils ont faim. Ils sont confrontés au premier problème. Il faut manger. Ils se tournent vers Moïse, Moïse se tourne vers Dieu. Et là, paf, le restaurant d'en haut commence à concocter des mets avec un régime alimentaire strict qui va permettre à ce peuple de vivre dans un environnement sans prendre le superflu de graisse. C'est ainsi qu'ils sont nourris avec une diététique divine où on a choisi les repas, la manne et la caille. Ils mangent donc selon la prescription divine. Quand ils ont soif, il n'y a pas de hawa, il n'y a pas de périer, il n'y a pas de fontaine, il n'y a pas de rivière, mais il y a le rocher. Moïse se tourne et par le rocher, paf, voilà l'eau qui jaillit. Est-ce que ton Dieu n'est pas un Dieu de miracles? Alors dis à ton voisin, Wanda. Dis Wanda, c'est en anglais. Dis miracle. Amen. Vous voyez, donc Dieu aime nous épater, vous voyez. Il veut nous étonner. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire sortir de l'eau avant qu'il n'arrive? Pourquoi est-ce qu'il attend qu'il pose le besoin d'eau? Parce que Dieu prend plaisir à nous étonner et nous épater. Pour qu'on voit sa grandeur. Et donc c'est ainsi que, voilà, ce peuple va arriver à la frontière de Canaan. La terre promise. Quand il y arrive, Moïse dit, bon, on va sélectionner 12 personnes qui vont y aller. Et les 12 sont choisis par tribu. Donc on choisit les évêques de chaque tribu. Les hommes oints. Respectés, honorés. On envoie. Ils partent et ils reviennent. Regardez le rapport des 12 espions. 10 d'entre eux disent, nombre 13, 33, et nous avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Donc ils donnent le rapport à Moïse. Moïse, nous sommes allés au territoire, il est occupé. Et pas par n'importe qui, par des géants, des fils d'Anak. Ils sont là, le territoire est imprenable. Ce peuple a pendant longtemps marché. Alors, la nuit, il commence à murmurer. Nombre 14, 1, 2, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Ils pleuraient. Et pour eux, ils étaient très spirituels dans leurs pleurs. Oh, papa, hey, papa, s'il te plaît, regarde notre situation. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi on n'est pas mort en Égypte? Si on meurt ici, où est-ce qu'on va nous enterrer? Regardez la dimension charnelle de ce peuple. Et donc, quand Josué et Caleb se lèvent et disent, verset 7 à 9, ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, il est excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Donc vous voyez, ils voient la dimension spirituelle. Ils sont géants, certes, mais ils n'ont pas de couverture. Ils n'ont pas d'ombrage. Ils ne sont pas, ils sont exposés. Notre Dieu est avec nous et il nous couvre. Bien-aimés, aussi longtemps que Dieu est avec toi, quelle que soit la hauteur de tes ennemis, ils sont vulnérables, ils sont exposés et tu vas les atteindre. Dis Amen. Dis Amen. Et deuxième chose à comprendre, on aurait tremblé si le territoire était occupé par des nains. Mais comme c'était par des géants, on devait comprendre la sagesse de Dieu. Dieu, les géants ne sont pas venus posséder le terrain. Ils sont venus garder Canaan pour le peuple d'Israël. Ils n'étaient pas venus le voler. C'était des géants. Qui donne la taille? Qui donne la taille? Est-ce qu'ils étaient géants par hasard? C'était les gardiens que Dieu a mis sur la promesse du peuple d'Israël afin qu'ils gardent le territoire en attendant que les propriétaires légitimes arrivent. Je prophétise sur ta vie que le territoire occupé te sera cédé. Dis un bon Amen. Dis un bon Amen. Amen. Faut pas avoir peur. Est-ce que ça va? Il ne faut jamais avoir peur. Quand ils ont terminé leur discours, la Bible dit, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Vous imaginez ça? Ils parlent de la part de Dieu et l'assemblée veut les lapider. On n'a pas dit l'assemblée des Égyptiens, mais l'assemblée d'Israël. Veut les lapider. Bien-aimés, il y a une dimension. Quand tu l'atteins, ce n'est plus le diable qui te combat, mais c'est les mêmes personnes autour. J'appelle ça la dimension de la haute révélation. Quand tu décides de marcher, comme Dieu veut que tu marches, les religieux grincent des dents parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver. Est-ce que ça va? Écoute-moi bien. Dieu ne m'a pas conçu pour que je ressemble à ceux qui m'ont précédé. Si je suis venu après, c'est parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose qui doit se révéler après. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton voisin, je me décide à régner. Dis-le encore, je me décide à régner. Je posséderai tout ce qui est rattaché à mon identité. Avec géant ou sans géant, le plus géant des géants est à mon côté. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh, amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ceux qui n'entraient pas à Canaan ne sont pas entrés. Pas parce que Dieu s'était opposé à eux, mais parce qu'ils ont été victimes de leur mentalité d'esclave. Ce n'était ni Dieu ni le diable. C'était leur mentalité. Un jour, j'ai invité un homme de Dieu ici, à l'école du potier. À la fin, il est venu me voir, il m'a dit, homme de Dieu, il faut que je te fasse une confidence. Je lui ai dit, vas-y, parle. Il m'a dit, tu sais, on a eu des réunions où j'ai été présent. Les hommes de Dieu parlaient de te tuer. Vraie histoire. Et il m'a dit, ça y va au point où si tu meurs, certains vont s'en réjouir. Et Dieu, croyant, voilà très bien, qu'on rendra service à Dieu. Quand vous arrivez à une dimension de la connaissance de Dieu, vous devenez un jugement pour ceux qui ont traîné les pas. Les gens disent, c'est Dieu en Côte d'Ivoire, on vous demande si c'est vraiment Dieu et ou à faux. Il fait comment? Non, c'est Dieu, vraiment, il n'y a pas d'argent. On dit et ou à faux, il fait comment? Tu deviens un jugement. Tu deviens un miroir dans lequel les gens ne veulent pas montrer leur visage d'échec. Mais il fait donc comment? N'est-ce pas les mêmes églises? Vous prêchez, on dit, vous êtes aussi pasteur, évangélique, oui. Ah, tu es la même chose que Wafo, là? Ah, d'accord, laisse-moi t'accompagner. Et puis tu prends ton vélo, on dit, ah, vous êtes même chose. Mais qu'est-ce que les gens veulent dire? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la même gloire? Au lieu de t'approcher de celui qui a connu le chemin, tu commences à le combattre, pensant que s'il meurt, on ne saura plus la vérité. Laisse-moi te dire, chaque fois que tu t'identifies à la parole et que les gens veulent t'attaquer, ce n'est plus toi qu'ils attaquent, ils attaquent la parole. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ils attaquent la parole. Et personne ne peut terrasser la parole. Aussi longtemps que ta vie est sur la parole, reste tranquille. Reste tranquille. Car je te garantis que Dieu prendra soin d'eux. Soyez sereins. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Et je vais vous dire une chose. Faites attention à l'auge. A-U-G-E. Au récipient, à l'autel qui vous nourrit. Où vous buvez de l'eau. N'allez pas boire l'eau n'importe où. Ne buvez pas l'eau n'importe où. Il ne faut pas avoir soif et puis tu cours boire n'importe quel hôtel. Il faut avoir des évidences. S'il n'y a pas d'évidence sur cet hôtel, rien ne te pousse à aller boire. Je bois à l'hôtel où je sais qu'il n'y aura pas de marque tachetée sur mon... Est-ce que vous me comprenez? Parce que si l'aveugle montre le chemin à l'aveugle, l'aveugle ne connaissant pas le chemin, les deux vont se détruire. Donc, je suis d'accord, je ne vois pas. Mais est-ce que, même je vois quand même un peu clair pour voir celui qui voit. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Dieu m'a donné quand même un peu de vue qui me permet de voir celui qui voit. Deux personnes ici, dépêchez-vous. Deux personnes. Ok, les deux marchent. Ok, lui il est aveugle parce qu'elle les voit. C'est juste une illustration. D'accord. Vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas? Donc, les deux sont ensemble. Et je ne vois pas trop loin. Mais je peux quand même voir la couleur de l'habit de celui qui voit. Donc, si je dois m'accrocher à quelqu'un, si j'attrape celui-ci, même son noir me montre déjà qu'il ne voit pas bien. Donc, je ne m'accroche pas à lui. Donc, j'attrape au moins celui qui a le vêtement coloré. Et la personne me... À partir de ce moment, même si je ne vois pas, au moins je sais qu'elle m'amène sur le... Mais alors que si je le suis, à un certain moment, on va se retrouver par terre. Parce que lui-même, il ne connaît pas. Vous comprenez de quoi je parle? Vous voyez, c'est pourquoi le ministère ne se fait pas avec précipitation. Dieu te donne le temps des évidences. Cette évidence devient les preuves visibles de ce que lui, on peut te suivre. Ce n'est pas par hasard que Jésus est revenu montrer ses deux mains en disant, regardez les marques de ma crucifixion. J'ai parlé, maintenant vous voyez. Tu ne peux pas faire 15 ans, tu parles simplement. Jésus a parlé 3 ans, la 3e année et demie, on a vu. Tu ne peux pas parler toute ta vie en disant, c'est la foi. Non, il faut qu'on voit quelque chose. Il faut qu'on voit quelque chose. Si à ton voisin, on doit voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, bien-aimé? La raison pour laquelle je dois me décider à régner, c'est que je suis né d'en haut et non d'en bas. J'appartiens au monde élevé. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Et cela vient de qui? Du pasteur? Du diable? Des anges? Dit de qui? Et Dieu est où? Qui nous a réconciliés avec Christ. Donc si on est réconcilié, c'est qu'on est né d'en haut. Donc ma vie ne dépend plus de la terre. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Je ne peux plus dépendre de la terre. Je dépends du haut. Oui, on a des problèmes en Côte d'Ivoire. Je ne m'en fous. L'essence peut coûter 1 million de francs CFA. Ce n'est pas mon problème. Mon économie ne tarit pas. Et mon économie est céleste. Les médicaments coûtent cher. Moi, je m'en fous. Ma Bible est toujours gratuite. Chaque verset biblique a la capacité de me restaurer. Est-ce que ça va? Il y a plus de femmes que d'hommes et on ne trouve pas assez de maris. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas dans la polygamie. Non, non, non. Dieu a sauvé minutieusement hommes et femmes ayant déjà fait des programmations et des croisements pour que les choses s'accomplissent. Pourquoi je panique? Je ne panique pas. Je dépends d'en haut. Je dépends où? Maintenant, regardez ce que Jésus dit de ceux qui viennent d'en haut. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Oh my, 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 my. Est-ce que tu as compris de quoi je parle? Je bénis les mamelles qui m'ont allaité. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Celui qui est né d'en haut est béni et au-dessus de tous. Donc, si on me met au milieu des païens, suis-moi très bien. La Bible dit je suis au-dessus de tous. Aucun païen n'ayant Jésus, même s'il est ton patron, ne peut être au-dessus de toi. C'est la raison pour laquelle les gens complexes étaient jaloux. Parce qu'ils voient quelque chose dans ta vie qu'ils n'ont pas. Il y a quelque chose que le ciel t'a donné qu'il n'y a pas en eux. Tu es au-dessus de tous. Et il dit, celui qui est né de la terre est de la terre. Demande à ton voisin, de la terre ou du ciel? Réponds à ton voisin. Tu es de la terre ou du ciel? La Bible dit, il parle comme étant de la terre. Donc même le langage. Il y a des prédications, quand vous les entendez, vous vous rendez compte que le gars n'a pas rencontré Dieu. Il est tout le temps en train de dire, non, il y a des moustiques qui ont fait ci, il y a tel virus qui a fait ça, il y a tel sorcier qui a fait ci. Ça, c'est le langage terrestre. Le langage céleste ne parle pas comme ça. Car la Bible dit, il est celui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Dans le même verset de tous, deux fois. Pourquoi? Parce que Jacques 3, verset 17 dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est pure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le territoire où tu te trouves, recherche cette sagesse. Je vois Dieu. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas un slogan, mais une déclaration radicale de foi. Parce que c'est ce que je vois quand je prie. Je vois Dieu te donner la primauté, la prééminence. Amen. Dans le territoire où tu te trouves. Je dis, je vois Dieu. Bien-aimé, je dis, je vois Dieu. Que ce soit dans une institution internationale, rêve la tête. Amen. Tu n'es pas destiné à être en bas. Amen. Ta place est dans les hauteurs. Tu es au-dessus de tous. Dans les affaires, dans tes entreprises, la sagesse pure d'en haut est capable de te mettre au-dessus. J'ai rencontré les gens de Harvard, University, de Oxford. J'ai rencontré les gens de la Sorbonne. J'ai parlé avec les diplômés de grandes écoles qui étaient ébahis par de la sagesse qui venait de moi. Par la sagesse qui venait de moi. Pourquoi? Parce que la sagesse qui vient de Dieu est pure. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Dieu te rendra plus sage que les vieillards. Tes professeurs viendront te demander comment faire pour résoudre une équation. Parce que la sagesse que tu es un génie. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Tu es un génie, tu n'as pas compris de quoi. J'ai dit tu es un génie. C'est en toi en fait. C'est dans ton ADN. Tu as été conçu et programmé pour la hauteur. Relâche le potentiel. Fais ça, relâche. Fais ça, je relâche. Fais ça, je relâche. Fais ça, je relâche. Amen. Vous voyez les gens perdre leur temps. Oh oui ma soeur, tu as volé, tu as menti, tu as fait ça. C'est perdre le temps, c'est le langage de la terre. Écoute-moi très bien. La sanctification est notre nature. Et le règne, notre responsabilité. Vous avez déjà prié pour que la mangue soit mangue? Pourquoi? Elle a la nature de la mangue. Donc, être saint, la sainteté est notre nature. La sainteté, c'est notre nature. Le règne, notre responsabilité. Ça veut dire que si quelqu'un s'éloigne de sa nature, on n'a pas besoin de lui demander de revenir. La nature elle-même le repousse vers ce qu'il est. Allez sortir le poisson, vous le mettez à côté de l'eau et puis il va faire quoi? Vous allez commencer à prier pour qu'il rentre dans l'eau? Il va chercher l'eau de toutes ses forces. Parce que sa nature a été conçue pour vivre dans l'eau. Quand on est né de nouveau, notre cœur a été reprogrammé pour la sainteté. On n'a pas à te rappeler, hé, hey, attention, Dieu va te maudire si tu voles. Ton cœur lui-même te dicte le bien. Passons à l'essentiel. La connaissance du roi de gloire. Ma responsabilité, c'est de régner. Dis à ton voisin, je règne. Et tu dois régner. Dis-le à ton voisin, tu dois régner. Vous voyez? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour... Il vient faire quoi? Qui est le voleur? Oh, réponds-moi, qui est le voleur? Réponds à ton voisin, qui est le voleur? Deuxième. Il vient faire quoi? Il vient égorger et... Mais Jésus. Mais est venu afin que... Non, ce n'est pas ces brebis. Lis bien ta Bible. Afin que... Non, afin que Raoul... Il faut lire ta Bible. Mets ton nom à la place, ce n'est pas les brebis. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Lis bien ta Bible. Revenons dans la Bible. Mais Jésus est afin que Raoul Wafo ait la vie et qu'il soit dans. Très bien. C'est le païen qui dit les brebis. Mais tu es déjà une brebis. Tu mets ton nom. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On dit les brebis. Ça, c'est pour les païens. Mais tu es déjà brebis. Maintenant, tu mets ton nom. Raoul Wafo est la vie. Dis, je suis vivant. De la vie d'en haut. Alléluia! Alléluia! J'ai la vie d'en haut. Le Zoé de Dieu. La capacité d'en haut. La sagesse d'en haut. L'intelligence d'en haut. La provision d'en haut. La gloire d'en haut. La protection d'en haut. L'élévation d'en haut. J'appartiens au royaume élevé. Amen! 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 Alléluia! Certains d'entre vous, vous devez chérir Dieu de ce que vos frères ne sont pas encore venus à l'église. Avant. Parce que je n'étais pas encore là. Ils auraient entendu des choses qui auraient traumatisé leur destin. Vous savez, souvent, être mal nourri est pire que d'être... Donc, il faut faire attention. Après, qu'est-ce que j'entends? On s'est moqué des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris la dimension de la vie en Dieu. Mon fils Colet est venu me voir la dernière fois. Il me dit, oh papa, mon travail est menacé. Là dans mon bureau, je regarde. Je sais comment il a eu le travail, par la prière, dans le bureau. Je dis, mets-toi à genoux. Je parlais moins de 3 minutes. Je dis, va se régler. Je sais que quand il sortait, il se rendait vers. Pourquoi il n'a pas pris le temps avec moi? Bien aimé, je suis d'en haut. J'ai dit, va. Hier soir, on sort de la télévision, de la radio, il appelle. Il dit, papa, je voulais te dire, il y a eu conseil des ministres, l'affaire est réglée. C'est pas compliqué. Pourquoi? Quand la vie d'en haut se met en marche, il n'y a rien sur la terre qui peut arrêter ce que la vie d'en haut déclare. Barthélemy, mon prof de sport, il est enseigné. Quand il a été gagné, il est gagné au sport. En tant que coach, il vient à l'église, il écoute la parole. Et il n'était pas payé comme coach. On le recrute maintenant pour dire, voici ton salaire. Il dit, je ne prends pas. Il dit, je me suis souvenu que j'étais un enfant de Dieu. Et que je ne suis pas n'importe qui. Le patron dit, mais tu viens ici gratuitement? Il dit, oui. Mais si je dois être embauché, alors je demande cet autre salaire. Amen. Il a mis 60% dessus et on l'a pris. Avec ces conditions, il faut que j'aille à l'église le mercredi soir et le dimanche.
C'est ça l'audace. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais quelle est la vie de Dieu qui est en toi. Dernièrement, ici, on dit, j'ai dit, venez avec vos sujets de Goliath. Et un jeune homme, la nuit, les démons de nuit, les maris, les femmes de nuit le poursuivent. Je n'étais pas au courant. Il met sur le sujet, il lève les mains vers le ciel. On déclare. Il rentre, ça s'est arrêté. Ils viennent maintenant, ils arrivent loin, ils ne peuvent plus avancer. Pourquoi? Une parole a été relâchée. Ce n'est pas une affaire de dire, oui, viens, on va faire 3 heures de temps dans la prière. Pourquoi? Pour un mari de nuit. 3 heures de temps de ma destinée pour un mari de nuit. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le pasteur, il ne s'occupe pas bien de moi. Il n'a pas prié pour moi longtemps. Bien aimé, si tu as la révélation de la vie d'en haut, tu règles 95% de tes problèmes. Par la révélation de la vie d'en haut. Qui est ce démon pour oser s'attaquer à la fille ou au fils de Dieu quand tu as la révélation? Demandez à Madame Veilly qui est assise devant vous. Elle a paniqué. A raison. Son enfant doit aller aux États-Unis, pas d'argent jusqu'à la dernière semaine. Sans aller demander à qui que ce soit. Juste la prière dans cette assemblée. Quelqu'un est entré chez elle. Elle dit, ah, c'est quel problème tu as? Voilà 5 millions. Envoie l'enfant aux États-Unis. Elle est là. Ce n'est pas une affaire. Ça marche. Ça marche le royaume. J'ai dit, ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui sera survenue, qui sera au-dessus de tes forces. Amen. Dis, je me décide de régner. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Vous voulez vraiment régner? Vous voulez vraiment régner? Vous voulez vraiment régner? Tu vas voir ce qui va te passer dans ta famille. Certains d'entre vous ne savez même pas qui vous êtes. C'est ça le problème, vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous vous prenez n'importe comment. Non, 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 tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. C'est très important. Pour que le règne de Dieu soit manifeste au travers de toi, il veut d'abord qu'il soit manifeste en toi. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne laissons pas Dieu régner en nous. Comment on réagit quand on est face au défi? Comment on réagit quand les gens te critiquent? Comment tu réagis quand les gens t'accusent? Mais attends, si tu crois que tu es une montagne, une maison bâtie sur une montagne, ça veut dire que tu es sujet de beaucoup de commentaires. Vous savez, les gens qui n'ont jamais conçu des maisons, c'est eux qui vont te dire que le lampadaire là devait être mis à gauche. Ils n'ont jamais conçu quelque chose. Que non, la façon dont on a mis les fleurs, on aurait plutôt mis ça de l'autre côté. C'est des gens qui parlent, ils n'ont jamais rien fait. Il y a 2 catégories de personnes sur la terre, les parleurs et les faiseurs. Et les parleurs sont plus nombreux. Ils parlent parce qu'ils sont à terre, ils sont de la terre. Le langage de la terre, c'est commérage, jalousie, rancune. Ils sont dedans. Mais toi, tu es en haut. Qu'est-ce que tu viens chercher à terre? Tu es en haut. Laisse-les parler à terre. Et c'est normal. Tu as été mis en haut pour susciter leur bouche. Dieu t'a suscité pour faire parler. Donc pourquoi tu vas encore te mettre à te défendre? Est-ce que ça change la maison que tu es? C'est sur la montagne. Tu es sur là. Et si tu veux parler, tu risques de quitter la montagne pour te retrouver par terre. La maison située sur la montagne ne répond pas. Donc c'est important. Colossiens 3, verset 1 à 2. Si vous donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Dis, oh, je cherche les choses d'en haut. Encore, je cherche les choses d'en haut. Il dit, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous allez lire la suite pour voir les choses de la terre. Affectionnez-vous les choses d'en haut. Donc, si je veux vraiment régner, il est indispensable de cultiver la vie d'en haut par des exercices de la piété. L'exercice de la piété. Vous voyez, certains d'entre nous, nous avons la vie de Dieu, mais nous, on ne veut pas l'exercer. On ne veut pas cultiver. Pourquoi cette génération, peu d'enfants de Dieu, prennent le temps de lire la Bible? Parce qu'on a aujourd'hui certains prédicateurs farfelus, égarés, motivés par la faim, la soif de physique charnelle qui trompe et ensorcelle le peuple par des discours vains. On amène les gens à courir vers des prophéties. Oh, Dieu va me montrer ton futur. Oh, Dieu va me montrer ci. Oh, Dieu va me montrer ci. Non, ça ne sert à rien. Nous sommes dans la nouvelle alliance.
Est-ce que je méprise les prophéties? Non. Mais la parole de Dieu est la prophétie la plus efficace. La parole. Donc, je dois lire la parole. Premièrement, le seul secret de victoire que Dieu a donné à quelqu'un dans la Bible, c'est Josué 1, verset 8. Et il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Mais dites-le, afin d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu, dans tout ce que tu entreprendras, ça veut dire que quel que soit ce que tu vas faire, ça marche. Je ne connais pas l'échec. Quel que soit ce que je fais, ça marche. Pourquoi? Parce que le ciel est avec moi. Est-ce que vous me comprenez? J'ai déplacé le ciel dans mes réalisations. Donc si je fais le business, ça marche. Je prêche l'évangile, ça marche. Quel que soit ce que je fais, ça marche. Pourquoi? Le ciel est avec moi. C'est la condition. Mais prenez le temps d'ouvrir la Bible. C'est simple. Instruisez-vous. Lisez la Bible. Méditez la Bible. Ne venez pas prendre la Bible pour connaître le verset biblique. Prenez la Bible pour connaître Dieu. Voyez, les gens ouvrent la Bible, ils cherchent rapidement, mais ça, qu'est-ce que je vais prêcher aux autres? Bien-aimé, est-ce que la parole a parlé à ton cœur? Quand est-ce que tu as lu la Bible jusqu'à ce que tu tombes à genoux devant Dieu avec la Bible entre les mains et tu commences à pleurer, tu dis, Seigneur, cette parole, elle est dure, aide-moi, papa, aide-moi. Tu es là avec le verset biblique. Ce n'est pas lire la Bible comme un roman, mais rencontre Dieu. Rencontre Dieu. La raison pour laquelle ma sagesse est très élevée, c'est que je frotte constamment mon cerveau à celui de Dieu. Quand je lis la Bible, ma tête et celle de Dieu sont en relation. Donc je puise de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas réussir sans sa parole. Lisez la Bible, méditez la parole, essayez de comprendre ce que la Bible dit. Et ayons tant d'intimité. On est devenu tellement léger que la Bible pèse trop lourd entre nos mains. Prenons le temps de la lire. Ayons tant de qualité avec Dieu. J'ai dit qualité. C'est passé, il dit qualité. De façon que quand vous sortez de là, vous avez envie de revenir après. Vous voyez? Donc, on a la méditation. Vous voyez? Je vais vous dire une chose. Ne l'oublie jamais. Tu ne vas pas échouer parce que les sorciers de ton village sont contre toi. Jamais. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas échouer parce que les gens parlent contre toi. Tu ne vas pas échouer parce que les gens de l'église sont contre toi. Tu ne vas pas échouer parce que ton pasteur ne t'aime pas. Ce n'est pas possible. La seule chose qui peut te pousser à l'échec avec la vie de Dieu, la seule vraie chose, c'est le manque de connaissance. Ça ne pardonne pas. L'ignorance est fatale dans le royaume. Osée 4, verset 6, mon peuple périt, manque de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on périt. Vous voyez les gens, ils se pressent de prêcher la parole, ils ne connaissent même pas la Bible. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Prenons le temps, bien-aimé. Soyons d'abord des fils de Dieu. Avant de commencer à travailler pour Dieu. On a des ministères partout. Ministère de la gloire rapide. Ministère transfert rapide. Ministère. On ne comprend même plus ce qui se passe. Il faut les gens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout le monde veut se lever. Oh non, c'est mon heure, maintenant c'est mon heure. Bien-aimé, pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Jésus a fait 30 ans pour assimiler, 3 ans pour travailler. 30 ans pour assimiler, 3 ans pour travailler. Chaque année de travail correspond à 10 ans d'investissement. Il était Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous, on est pressé, on court, on ne prend pas le temps, on veut épater, on veut impressionner. Vous savez, le problème, c'est que quand vous n'êtes pas guéri de votre complexe d'esclavage, ou à la mentalité d'esclavage, ou le complexe d'infériorité, vous avez envie de prouver quoi que ce soit, vous ratez votre destinée. Je n'ai rien à prouver à quiconque. Est-ce que ça va? Regardez ces billets. Ils ont de la valeur. Si je me tiens dessus, est-ce que ça change leur valeur? Est-ce qu'ils parlent? N'est-ce pas, ils s'étaisent? Pourquoi? Parce que le fait que je piétine, que j'insulte, ne change pas. Regarde-moi ce vilain billet de 50. Il se tait. Mais il est 5000. Tu peux dire ce que tu veux. Il sait qui il est. Mais essaye de jeter une pièce. Avant qu'elle va tomber, elle va se retrouver là-bas. Tellement de bruit parce qu'elle n'a pas de consistance. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Dis à ton voisin, j'ai de la valeur. J'ai été conçu pour dominer. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Bien-aimé, écoutez-moi bien, le cri de mon cœur, quand je gémis dans la prière, c'est que vous saisissez cette parole et que vous comprenez que ça ne s'arrête pas à l'église. Tu sors d'ici comme fou ou folle en disant je domine. Est-ce que ça va? Que ta vie devienne l'expression visible de la puissance de Dieu. Il faut connaître la parole. Ensuite, si tu connais Dieu, tu l'adores. Il faut être un adorateur. Vos maisons sont trop calmes. Trop calmes. Quand on entend le bruit, c'est que peut-être l'enfant pleure. Ou alors on entend l'homme dire, « Hey, si tu continues comme... » Non. Ouais, il faut du bruit pour le Seigneur. Oh, alléluia. Ribo sarababo yandere ria ende ribo sarababa. Oh mon Dieu, je t'aime, je t'aime. Je suis heureux d'être en vie. Mon âme t'exalte, mon être entier te loue. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis ce que je suis parce que tu es ce que tu es. Mon âme t'aime, Seigneur. Je suis amoureux de mon Créateur. Tu es si bon, tu es si grand, tu es si merveilleux. Tu m'as montré la première partie de ce que tu as réservé à ma vie. Je suis déjà étonné, mais je sais que le meilleur est à venir. Ô Père, mon âme t'exalte. Vous êtes dans l'adoration vraie. Ce n'est pas à l'église où vous essayez d'épater votre voisin. Seul quand personne y est, vous dansez dans sa présence. Vous faites descendre Dieu dans votre chambre. L'adoration. Soyez des adorateurs. Certains d'entre vous, vos visages sont trop secs. C'est la preuve que l'huile n'a pas coulé depuis longtemps. Il n'y a pas eu d'adoration. Adorez Dieu. Retrouvez la joie. Retrouvez la vie. Adorez-le. Au milieu des épreuves, adore-le. D'accord? Il faut l'adorer. Jean 4, verset 23. Il faut prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et ensuite, il faut jeûner. Dis à ton voisin, je dois jeûner. Dis à ton voisin, je dois jeûner. Matthieu 6, verset 16 à 20. Il est écrit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton père qui est là dans le lieu secret, le rendra. Et ton père qui voit dans le lieu secret, le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent, point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit, n'est-ce pas, lorsque vous jeûnez, dis à ton voisin, lorsque tu jeûnes. Vous voyez, le verset 17 dit, lorsque, verset 16, lorsque vous jeûnez. Lorsque vous jeûnez. Ça veut dire que quand il va t'arriver de jeûner. Donc, ça évoque un futur certain. Mais le verset 17 dit « quand tu jeûnes ». Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau depuis 15 ans, on est toujours à « lorsque le quand n'est jamais arrivé ». Ils n'ont jamais jeûné. Donc, c'est eux, c'est toujours « lorsque tu jeûnes ». Mais ils n'ont jamais jeûné. Donc, il n'y a pas de « quand ». Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais la Bible dit qu'il faut jeûner. C'est important de jeûner. Et la Bible dit que si tu jeûnes, tu t'amasses des trésors dans le ciel. Tu t'amasses des trésors dans le ciel. Bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est que nous avons des comptes bancaires au ciel. Certains d'entre vous n'ont pas compris de quoi je parle. Et je vais vous dire une chose. Chaque action que nous posons sur la terre est enregistrée au ciel. Si vous arrivez à votre banque, que votre banque soit n'importe quelle banque, et que vous déposez de l'argent, l'argent qui est à la banque appartient à qui? À vous ou au banquier? Ma soeur, ça appartient à qui? L'argent que tu déposes à la banque, c'est à toi ou à la banque? C'est à toi. Tu as déposé. Tu as déposé 2 millions en banque. Et tu viens chercher 3 millions. La banque va te donner? Pourquoi? Est-ce que la banque n'a pas plus de 3 millions? Mais tu as déposé combien? Très bien. Donc quand tu viens chercher en fonction de ton dépôt. Quelqu'un d'autre à côté de toi vient, il sort 150 millions. Vous êtes à la même banque. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'il a déposé avant. Donc chaque fois que tu jeûnes, tu es en train de fournir ton compte bancaire céleste d'une provision exceptionnelle. Tu mets des trésors dans le ciel. Et il y a des moments de ta vie où les choses arrivent, tu te dis, mais je ne sais même pas ce que j'ai fait pour que Dieu fasse ça. Mais non, dans le passé, tu as investi pour, ta, pour ton futur. Il faut apprendre à jeûner. Aujourd'hui, les prédicateurs modernes n'aiment pas parler de jeûne. Jésus a jeûné. Notre grand frère, son père n'était pas possédé, sa mère n'était pas possédée, descendant tout, du ciel, tout dans le ciel, il n'a pas coupé de cordon ombilical. Il descend du ciel, directement. Il n'était pas, mais il a jeûné. Il dit, lorsque vous jeûnez, donc jeûner c'est bon. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent, non, pasteur, j'ai, mon jeûne aujourd'hui, c'est que je ne vais pas aller sur Internet. Aller pas aller sur Internet, ce n'est pas jeûner. Ou alors, mon petit déjeuner, je ne prenais pas de fromage, je ne prenais pas de beurre. Non, je vais jeûner en enlevant le fromage. Bien aimé, ce n'est pas le jeûne, c'est le régime alimentaire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsque vous jeûnez, donc chacun d'entre nous doit jeûner. Quand tu jeûnes, il faut jeûner. Et jeûner, c'est se priver d'eau et de nourriture pendant un certain nombre de temps. Et ça fait partie de l'exercice de la piété. Vous ne pouvez pas aller dans la plénitude de la révélation de Dieu si de temps en temps, vous ne vous abstenez pas de nourriture. Le problème d'Adam a été la nourriture. Le problème de Jésus est qu'il a vaincu la nourriture. Adam est tombé dans le pied de la nourriture, Jésus est allé au-dessus de la nourriture. Dans certains moments, vous devez être off. Je ne dis pas aux gens de faire comme moi, mais les trois premières années de mon ministère, 120 jours de jeûne par an, pendant 3 ans. Si je vous montre certaines de mes photos, vous allez vous demander comment est-ce que j'ai suivi. Si on montait ça aux États-Unis, on allait susciter les offrandes. Vous connaissez un peu les genres de personnes, on montre les photos en Amérique pour dire aider les Africains, ils ont une tête comme ça, une peau, c'était un peu, et puis les yeux sont tout gros, là, comme ça. Donc c'était un peu comme ça que j'étais, quoi. Et puis les gens me regardaient, je comprenais pourquoi les gens me regardaient trop. Je pensais que c'est parce que j'étais beau, mais j'étais bizarre dans mon apparence physique. Avec des costumes d'une certaine taille. Et tu vois, à cette époque-là, tu mets un pantalon jusqu'ici. Et quand tu marches, tu es toujours là en train de soulever les pieds de deux côtés. Tu es sûr que tu es le plus bon gars du coup, en fait. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais c'est important de comprendre ceci. On passe tous par là. Mais il faut travailler dans son homme intérieur, se priver de nourriture et laisser la parole se déposer dans son esprit. C'est important. C'est des temps de qualité. Il y a deux dimensions de jeûne. Il y a le jeûne personnel, il y a le jeûne collectif. Si vous êtes dans une église, on ne jeûne pas souvent, ce n'est pas bien. On doit t'éduquer au jeûne. Je parle de toi de l'autre côté. Il faut bien jeûner. C'est très important pour ta destinée. Que Dieu te bénisse richement. Et je crois de tout mon cœur que tu t'es décidé à régner. Amen. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel ce matin. Nous allons parler ensemble. Nous allons parler ensemble. Répète après moi, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus.
Moi, Raoul Loifo,
je prends la résolution
ce matin de régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Car je reconnais que Jésus a payé le prix pour ma justification. Je suis racheté. La rédemption est mon partage. Je décrète qu'à partir de ma vie, les gens verront la gloire invisible de Dieu. Je suis l'expression visible du Dieu invisible. Je déclare que dans le domaine où Dieu m'a placé, le règne est une évidence. Je marche par la foi. Et chaque jour, je vois la gloire de Dieu. Je déclare que moi, Raoul Wafo, j'ai dit à Dieu et à la terre que je refuse de mourir pour voir le ciel. Car Jésus m'a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Sur la terre, je vis le royaume dans toutes ses dimensions. Par la puissance de l'Éternel, je règne. C'est mon choix. Je règne. Je sais que Dieu ne manque jamais. Et à cause de cela, il va veiller sur sa parole pour l'exécuter. Au nom de Jésus, amen trois fois.